Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, ou du moins unique en son genre, parce que ça va être uniquement vidéo. Uniquement audio. C'est pas de vidéo du tout. Donc, uniquement audio parce que je suis au lac Saint-Jean et j'ai pas vraiment de spot pour me filmer, là. À part si j'ai envie d'être genre le gars devant tout le monde qui se filme, puis ça me tente pas pantoute. Mais de toute façon, il y a vraiment beaucoup plus de monde qui écoute le podcast en audio seulement. La seule raison pourquoi je le fais, ben pas la seule raison, mais une des raisons pourquoi j'insiste à mettre du vidéo, c'est pour faire les extraits sur les réseaux sociaux. Et je sais pas à quel point ça en vaut la peine. Sûrement que ça en vaut la peine parce que c'est quand même une belle façon de faire connaître le podcast. Mais en fait, la meilleure façon de faire connaître le podcast, puis là, je vous parle à vous qui écoutez, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui écoute le podcast, c'est d'en parler à votre entourage, de partager sur les réseaux sociaux, de faire... si vous aimez le contenu, évidemment, si vous aimez pas ça, ben je sais pas exactement qu'est-ce que vous faites ici à m'écouter présentement si vous n'aimez pas le contenu que je fais. Mais si vous aimez ça, s'il vous plaît, partagez-le. Le bouche-à-oreille, ça fait un long bout de chemin. Et aussi les partages, évidemment, sur les réseaux sociaux, là. Donc, ça, c'était les petites plugs. J'ai-tu des plugs à faire pour Upika? Non, je pense pas. Si vous écoutez le podcast, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez le podcast. Upika, c'est ma compagnie. C'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. C'est pensé précisément pour les athlètes d'endurance. Allez voir tous nos produits. En fait, on a un intra-workout, on a un produit de récup, on a un produit pour augmenter les glucides dans vos drinks, pour aller chercher vos cibles de nutrition. Allez voir ça au upika.ca. Puis si jamais vous voulez commander, utilisez le code UPIKAPODCAST pour sauver 10% sur votre première commande. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je voulais faire un retour sur les Olympiques, parce que les Olympiques, c'est une fois à chaque 4 ans, vous le savez, et c'est toujours l'espèce de réunion pour les crinqués de sport. C'est aussi le moment où est-ce que le monde entier tourne son attention vers des sports qui, le reste du temps, sont pas nécessairement populaires. La natation, par exemple, moi, c'est mon sport de prédilection. Puis la natation, monsieur, madame, tout le monde n'avait pas entendu parler de Léon Marchand avant cette année. Mais les gens qui suivent la natation, ça fait longtemps qu'on le sait, qu'il s'en vient. Mais parce que les Olympiques sont les Olympiques, ben on voit ces sports-là devenir proéminents seulement une fois à chaque 4 ans. Ce qui est un problème en soi, selon moi, mais... on réglera pas ça aujourd'hui, là. Sauf que, étant donné que c'est les Olympiques, puis que j'ai écouté les Olympiques comme un vrai malade, ben j'ai voulu faire mon top 10 des moments marquants ou des moments qui m'ont marqué, moi, aux Olympiques. C'est une liste tout à fait subjective. C'est une liste qui va avoir probablement des points morts. Probablement que vous allez avoir des moments qui vous ont marqué qui sont pas dans ma liste. Puis c'est bien correct, c'est la beauté de la patente. Mais c'est ça. Je voulais faire une petite liste pour pouvoir faire un genre de podcast un petit peu plus structuré que juste parler des Olympiques. Il y a quelques disclaimers là, avant de commencer. Il y a des sports que je ne suis simplement pas. Par exemple, tout ce qui n'est pas sport d'endurance, je ne regarde pas vraiment ça. Tout ce qui est sport où est-ce qu'il y a de l'abus d'animaux, comme le sport équestre, j'écoute pas ça non plus. Venez pas dans mes commentaires là, pour défendre le sport équestre. J'ai dit ce que j'ai dit. Ensuite, tous les sports qui sont explosifs, autant je trouve ça vraiment cool, autant j'écoute pas l'haltérophilie, ou si je l'écoute vraiment d'un œil néophyte, là, puis je me sens pas à l'aise de commenter ces sports-là. Et probablement que mon plus gros point mort dans mon intérêt aux Olympiques, c'est le canot-kayak. Je sais que c'est un sport d'endurance, je sais que c'est des athlètes vraiment exceptionnels. Je sais même que le Canada, voire le Québec, on est très fort dans ça, mais j'écoute pas ça. Fait que j'en ai pas parlé dans la liste qui s'en vient. Moi, je parle principalement des sports d'endurance, triathlon, course, vélo, natation. Ça a été ça, les trucs qui ont vraiment attiré mon attention. Et je pense que les histoires qui s'en découlent sont extrêmement intéressantes, puis ont l'intérêt pour moi d'en parler aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, c'est sûr que, comme je disais, j'ai manqué des moments qui vous sont marquants. Peut-être que vous tripez sur des sports que je ne parlerai pas ici. Mais comme je disais, c'est une liste très subjective. Donc, entrons dans la matière. Avant de faire mon top 10, j'ai des mentions honorables sur lesquelles je vais passer un petit peu moins de temps. Première mention honorable, c'est les Français en général. Les Français se sont pointés à ces Olympiques-là. C'est toujours vraiment le fun de voir la foule derrière des athlètes de la place du pays qui hôte qui tient les Jeux, en fait. Et les Français se sont vraiment pointés. J'en ai noté quelques-uns là, ici. Valentin Madouza et Christophe Laporte au cyclisme sur route, qui sont arrivés deuxième et troisième dans une course. On va reparler de cette course-là un petit peu plus tard, mais juste leur présence là, sur le podium, c'est fort pour le cyclisme surtout, là, le sport français. Cassandre Beaugrand, qui a gagné le triathlon femme. Vraiment une performance extraordinaire, une domination, en fait, là, carrément. Florent Manaudou, troisième au 50 libres. Florent Manaudou, qui en était à ses quatrièmes Jeux olympiques, qui en était à sa troisième médaille olympique sur le 50 libres. Il avait gagné à Londres en 2012. Florent Manaudou, pour ceux qui ne savent pas, c'est le frère de Flore Manaudou, qui existe encore, mais qui, à l'époque, était la sensation française. Florent Manaudou est arrivé à Londres sur le radar de tout le monde. Il a gagné le 50 crawl. Et ce qui est une particularité quand même assez intéressante, c'est que les trois médaillés du 50 mètres crawl nageaient juste 10 km par semaine. Ça, c'est dur à entendre pour un gars comme moi qui faisait du 50 et du 100 et qui nageait au-dessus de 40 à 50 km par semaine, même parfois beaucoup plus que ça. Fait qu'en tout cas, il y a un commentaire peut-être plus large à dire là-dessus sur les sprints et à quel point on est entraîné tout croche au Canada, mais c'est une conversation pour un autre moment avec quelqu'un d'autre. Et sinon, Pauline Ferrand-Prévost au vélo de montagne, là, je sais pas si vous avez écouté la course de vélo de montagne femme, c'était une domination complète du premier coup de pédale jusqu'à la fin, vraiment une leçon de domination. Là. Et Pauline Ferrand-Prévost qui a dit, après avoir gagné la médaille d'or aux Olympiques en mountain bike, que c'était sa dernière course de vélo de montagne et que là, elle se concentrait pour aller gagner, pas juste participer, mais aller gagner le Tour de France Femmes 2025, Tour de France Femmes avec Zwift en 2025. Donc, ça va être à surveiller. Pauline, comme si c'était ma grande amie, Pauline Ferrand-Prévost, ça fait un bout qui est sur le radar. Là, je pense que ça fait 12 ans qu'elle avait gagné le championnat du monde sur route. Donc, elle est là depuis des années. En Tokyo, elle avait échappé l'épreuve de montagne, de vélo de montagne, même si elle était la grande favorite. Et cette année, ben, elle a gagné en domination complète. Si vous avez la chance d'aller revoir cette course-là, ça en est quasiment plate à quel point c'est une domination. Mais devant les fans sont là tout au long du parcours, ça crie. C'était vraiment un événement incroyable. Je vais sûrement dire événement incroyable à peu près 1000 fois dans le podcast, mais c'est ce que c'est. Deuxième mention honorable, l'équipe du Rouge et Or sur la piste, l'équipe du Rouge et Or, l'équipe de Québec sur la piste. Audrey Leduc au 100 mètres, 200 mètres, Jean-Simon Desgagnés au 3000 mètres steeples. Audrey Leduc qui a fait des demi-finales, je pense, au 100 et au 200. Jean-Simon Desgagnés qui a fait une finale au 3000 mètres steeple, Charles Philibert Thibouteau qui s'est rendu en demi-finale au 1500, qu'on a déjà reçu sur le podcast, Thomas Fafard au 5000 mètres qui a fait la finale. Tout ça sous la tutelle du coach Félix-Antoine Lapointe, coach Rougéor. C'est un programme extraordinaire. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe de quoi, qu'ils ont réussi à créer une culture de performance, une culture de dépassement. Et ce qui est le fun, surtout tu sais, avec un gars comme Charles Philibert Thibouteau, que ça fait longtemps qu'il a fini sa carrière universitaire. On a fini quasiment en même temps, lui et moi, ben, qui continue à s'entraîner de même, mais ça permet de tirer les plus jeunes comme Jean-Simon, comme Thomas, vers le haut. C'est important dans des programmes d'avoir des vétérans. C'est ce que moi, personnellement, je reproche le plus au programme de natation de la FNQ, de la Fédération de natation du Québec et même plus largement de Swimming Canada, de Natation Canada. C'est qu'il n'y a tellement aucun incitatif pour les personnes dépassées 21 ans, là, pour surtout chez les hommes. Puis ça, selon moi, c'est ce qui explique principalement pourquoi il n'y a aucun Québécois qui se rend aux Olympiques, pourquoi on n'a tellement pas de gars au Canada depuis que la réforme a été faite à Swimming Canada, c'est qu'on n'a pas de vétérans qui restent là. Il n'y a aucun incitatif financier. Quand tu es rendu à 21 ans puis que tu t'es pas aux Olympiques, ben tu te fais dropper, tu peux plus être élite, tu peux plus avoir de financement, il faut que tu commences à travailler sur le side, faut que tu commences à trouver des sponsors personnels, puis c'est une toute autre affaire, fait que tu te fais décrocher facilement. Ce qu'il y a une voiture qui est passée derrière moi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'avoir des gars comme Charles Philibert Thibouteau qui sont là. Même si ils sont pas dans les médaillés aux Olympiques, c'est important d'avoir des gars de ce calibre-là ou des filles de ce calibre-là qui montent, qui pavent la voie. Et je pense que c'est ça qu'ils ont créé dans l'équipe du Rougéor, l'équipe du Québec sur piste. Donc, une leçon à tirer pour les autres fédérations. Je pense vraiment que c'est... Puis, honnêtement, Charles, il a travaillé fort pour être là encore, là, tu sais. Il a pas passé aux Jeux de Tokyo. Il a persévéré malgré tout. Il est allé chercher des commanditaires personnels, justement, pour pouvoir continuer à s'entraîner, à rester au niveau. Et là, on voit les dividendes de ça. Donc, félicitations à toute l'équipe du Rouge et Or. Vous êtes pro. Félicitations à toute l'équipe du Québec sur la piste. Mention honorable encore, si vous n'avez pas vu la course de vélo de montagne, de la victoire de Tom Pidcock, qui a crevé, qui a fait une crevaison à, je pense qu'il restait 3 tours, qui est en premier jusqu'à là, qui a fait une crevaison, qui a perdu, je pense, 50 secondes et qui a remonté toute la course pour finalement aller dépasser le premier, qui était un Français, dans le dernier, je pense que c'était le dernier kilomètre. Et qui a remporté la course. C'était vraiment une course très enlevante. Mention, ça va être, je ne vais pas chialer sur la foule parce que j'ai trouvé que la foule était extraordinaire tout au long des Jeux. Mais les Français qui se mettent à huer Tom Pidcock quand il arrive parce qu'il bat un Français, j'ai trouvé ça moyen. honnêtement, c'est pas du tout dans l'esprit des Jeux olympiques. Le plus fort cette journée-là, c'était Tom Pidcock. C'est pas parce qu'il bat un Français en deuxième place qu'on doit le huer. Là. Ça lui a volé son moment, carrément, Tom Pidcock, qui est arrivé, puis il savait pas s'il devait célébrer ou non. On l'a vu là, à la reprise, c'est un dépassement qui est agressif, mais qui est tout à fait legit. Puis le monde qui se met à huer, là, tu vois que lui, il veut être content, mais en même temps, il comprend pas pourquoi il se fait huer. C'est pas un super moment, mais la course comme telle est absolument débile. Dernière mention honorable, Marie-Sophie Harvey, qu'on a reçue sur le podcast, qui a connu des Jeux un peu en dents de scie, mais qui est arrivée finalement, qui a culminé en arrivant deuxième aux 200 mètres libres en faisant un record du Québec. C'est extrêmement solide. Parce que les Jeux olympiques sont les Jeux olympiques et que tout se calcule en médailles, personne ne va parler de cette performance-là. Personne ne va se rappeler de cette performance-là. Quand Marie-Sophie va dire « Je suis arrivé quatrième aux Jeux olympiques », le monde va faire « Ah, oh, pauvre toi! » Mais yo, quatrième aux Jeux olympiques, aux 200 mètres libres. Le 200 mètres libres, c'est probablement l'épreuve historiquement la plus relevée des Jeux olympiques. Et là, Marie-Sophie est arrivée quatrième avec un record du Québec en rattrapant le monde dans le dernier 50. C'était une performance magistrale. Et parce que c'est pas une médaille de bronze, cette performance-là va peut-être disparaître ou du moins pas être reconnue à la hauteur de ce qu'elle devrait l'être. Donc, je voulais faire une mention honorable à Marie-Sophie pour, oui, tous ces Jeux, mais principalement pour son 200 mètres libre en finale. C'était de toute beauté. Ce qui nous amène au top 10 des moments, de mes moments préférés, mon top 10 de mes moments préférés aux Jeux olympiques. Je me serais senti très mal de ne pas mettre Pan Zhanli, le jeune Chinois au 100 mètres crawl, dans ma liste. Je me serais senti très mal de ne pas le mettre dans ma liste. Mais pourquoi juste à la 10e position? J'ai écouté cette course-là. Là, je vais faire un petit recap là, pour les gens, évidemment, qui ont. Mais vous pourrez retourner voir toutes ces affaires-là. Parce que Pan Zhanli a battu le record du monde de 4 dixièmes de seconde au 100 mètres crawl. Le 100 mètres crawl, il faut savoir que historiquement, quand le record du monde se fait battre, c'est par des centièmes de seconde et c'est une fois de temps en temps. Je pense que la stat, là, peut-être que je vais dire n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme ça. Là. La stat, c'était que les 12 dernières fois où est-ce que le record du monde s'est fait battre, c'était en tout de 4 dixièmes. Et là, lui a battu, c'était lui, pour être fair, c'était lui qui avait le record du monde déjà, qui avait fait cette année. Mais il a battu son propre record de 4 dixièmes. Si c'était que ça l'histoire, ce serait la plus grande performance de l'histoire de la natation moderne. Que moi, je suis la natation depuis 2000, depuis les Olympiques de Sydney, pardon, et c'est depuis 2000, ce serait la performance la plus incroyable. Pourquoi est-ce que c'est juste en 10e place? C'est parce que comme tout le monde qui l'a vécu en temps réel, quand Zhanli a touché la plaque et qu'on a vu 56-40 ou 56-4, ma première réaction, ma blonde était à côté de moi, elle pourrait en témoigner, j'ai dit « ça se peut pas ». Ça se peut juste pas. Puis tout le monde, évidemment, est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc le temps va nous dire si cette performance-là tient. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce que le monde de la natation au complet était choqué par cette performance-là. Premièrement, la piscine. Il faut savoir que la piscine, vous avez peut-être vu passer ça, là, la piscine était lente. C'est un concept qui est peut-être flou pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la natation, mais il y a des piscines rapides puis il y a des piscines lentes. Puis on le voit aussitôt que les compétitions commencent, quand c'est des compétitions internationales puis que les gens sont loin des records du monde. On en reparlera tout à l'heure là, avec Léon Marchand. Les gens sont loin des records du monde. Les gens sont gagnent, mais avec des temps qui sont plus lents que ce qu'ils ont déjà fait dans la même année. Souvent, c'est que la piscine est lente. Puis donc, quand ça s'est arrivé, on a appris que la piscine, au lieu d'avoir 3 mètres de profondeur, avait 2,1 mètres de profondeur. Donc, avait quasiment 30 % de moins profond. Et ça paraît énormément, surtout dans la natation actuelle où est-ce que il y a des coulées sous l'eau. Là. Fait que, tu sais, les 15 mètres après les virages, les nageurs restent sous l'eau. Ils vont quand même profondément pour faire des ondulations de dauphin. Et c'est ça. En fait, on est. Ça fait qu'il y a plus de remous, il y a plus de friction, et ça fait que les nageurs vont moins vite. Donc, tout ça mis ensemble fait que. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Là. Il y a comme quelqu'un qui me regardait. toutes ces raisons-là mises ensemble, le fait que c'est une piscine lente, le fait que c'est 4 dixièmes, le fait qu'il ait gagné par au-dessus d'une seconde devant des gars qui ont fait des temps extrêmement rapides cette année, tout ça a fait que le monde était un peu choqué. Et aussi l'historique chinois de on peut juste penser à Sun Yang, là, le nageur qui est arrivé sur le circuit, qui a tout dominé aux 1500 mètres et qui finalement vient de terminer en fait sa peine de 3 ans pour doping. C'est arrivé plusieurs fois où est-ce qu'il y avait du monde, des Chinois qui arrivaient sur le circuit, battaient un record du monde de façon extrême et disparaissaient l'année d'après. C'est arrivé plein de fois. Donc ça aussi, ça aide pas. Maintenant, ce que je vais dire à propos de ça, comme je disais, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce que je vais dire à propos de ça, c'est que si dans 4 ans à Los Angeles, Panzani est encore là, et que là, il a amené le record du monde de 56-4 à 56-2, 56-1 au courant des 4 dernières années, et qu'il arrive aux Olympiques dans 4 ans et qu'il gagne encore, OK, ça va avoir un petit peu légitimisé son record du monde, puis ça va avoir légitimisé sa performance. Ça veut dire qu'on va être en train d'assister à probablement le meilleur nageur de sprint de l'histoire. Donc, on met ça sur la glace pour l'instant. C'est pour ça que je voulais le mettre dans mon top 10, parce que si c'est legit, puis on a toutes les raisons du monde de croire que c'est legit jusqu'à maintenant, je veux dire, on peut... Tous les doutes que j'ai émis, il n'y a rien de fondé, là, tu sais. Donc, pour l'instant, c'est legit. Pour l'instant, ça tient. Donc, pour l'instant, c'est une performance absolument incroyable. That's it pour ça. Allez voir la course, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant, c'est le bon terme. Allez checker ça. Numéro 9, Sydney McLaughlin-Levron au 400 mètres haies. Je l'ai mis là-dedans, pas parce que j'étais un fan du 400 mètres haies, mais parce qu'à Tokyo, je me rappelle avoir écouté cette course-là et avoir vu Sydney McLaughlin-Levron. Je vais dire Sydney parce que ça commence à chier à en dire trop. McLaughlin. McLaughlin, c'est quand même tough à dire, là. Fait que, à Tokyo, je me rappelle avoir regardé le 400 mètres haies et m'a dit « Wow! Quelle domination! » Et là, j'ai suivi un petit peu les championnats du monde, puis j'ai suivi un petit peu l'athlétisme dans les trois dernières années, un petit peu plus attentivement, puis je regardais tout le temps le 400 mètres haies, puis à chaque fois, j'étais comme « Voyons! » Il me semble qu'elle fait quelque chose que les autres font pas. Et là, cette année, c'était un peu comme la culmination de la domination. C'était la domination incarnée. Allez voir cette course-là, parce que, puis peut-être que quelqu'un qui connaît ça plus que moi, l'athlétisme, puis le 400 mètres haies, pourrait dire que c'est pas le cas, mais moi, j'ai l'impression que c'est la perfection. La façon avec laquelle elle court le 400 mètres haies, c'est la perfection. Et quand elle a fait le record du monde en finale, elle a fait un temps qui aurait été finaliste au 400 mètres, pas haie. Fait que ça en dit extrêmement long. Je ne suis pas un expert de l'athlétisme, mais j'ai le feeling que sauter des haies, ça te ralentit pas mal. Mais elle est tellement fluide, on dirait qu'elle perd jamais le rythme. On dirait que c'est pas entre chaque haie, l'amène précisément à la prochaine haie. Alors que tu vois d'autres qui ont comme besoin de voir Léane avant, puis là, ils s'ajustent un peu. Elle n'a pas besoin de s'ajuster. On dirait qu'en chaque haie, elle sait exactement le nombre de pas. Elle se rend un petit peu plus loin. Elle refait la prochaine haie. C'est la perfection. C'est une domination complète. À côté d'elle, elle avait des coureuses internationales, puis elle les fait avoir l'air de débutante. Honnêtement, je l'ai mis en 9e position parce que cette course-là était de toute beauté. Vraiment. Allez voir ça si vous ne l'avez pas encore fait. En 8e position, j'ai mis, c'est pas vraiment une performance, j'ai mis deux performances, ou du moins deux globalités de performances, puis c'est en natation. Sarah Sjöström et Katie Ledecky, qui ont démontré qu'ils sont les deux « greatest of all times » de la natation féminine. Sarah Sjöström, ça fait des années qu'elle est là. C'est rendue une des plus vieilles nageuses qui, depuis Tokyo, s'est dit « je vais me concentrer ». Avant Tokyo, qui était supposé comme être les Jeux, où est-ce qu'elle était au pic de sa forme, elle s'était cassée le poignet, je crois, Et elle avait comme pas pu vraiment s'entraîner. Elle est arrivée à Tokyo, avait eu des jeux sous ses attentes. Et là, elle s'était dit, cette année, pour Paris, je vais juste me concentrer sur du 50 mètres. Finalement, elle s'est inscrite au 100 mètres crawl. Et du couloir numéro 2, donc même pas dans le milieu, même pas dans les favorites, elle a remporté le 100 mètres crawl. Elle semblait elle-même encore plus étonnée que nous. Et après ça, elle a juste complètement dominé le 50 mètres crawl, solidifiant sa place comme étant la meilleure sprinteuse de tous les temps en natation. Et après ça, ben, Katie Ledecky, qui elle a gagné le 800 mètres, le 1500 mètres. Son 1500 mètres, c'est, on dirait qu'elle est la seule à être à ce niveau-là. Depuis qu'ils ont, tu sais, au début, les femmes ne faisaient pas 2500 mètres initialement. C'était les hommes faisaient le 1500, les filles faisaient le 800. Mais depuis l'instauration du 1500 sur la scène internationale, Katie Ledecky a les 20 meilleures performances de l'histoire. Probablement qu'elle a les 25, en fait, si on est honnête. Là. À chaque fois qu'elle rentre dans l'eau, c'est une domination complète. Il n'y a personne même qui s'approche d'elle à se demander qu'est-ce qu'elle a compris, que les autres n'ont pas compris. Là. Si vous avez la chance de regarder le 50 crawl, le 100 mètres crawl, le 800 mètres crawl et le 1500 mètres crawl, vous allez voir les deux plus grandes nageuses de tous les temps. C'est un réel plaisir à chaque fois. Puis, malheureusement, Ledecky a dit qu'elle allait probablement se rendre jusqu'à Los Angeles. Mais Sjöström n'a rien dit encore, donc on va voir si elle va se rendre jusqu'au Jeu de Los Angeles. Mais c'était peut-être... on est dans les dernières fois parce qu'on va voir ces filles-là nager, puis c'est toujours aussi impressionnant. Je vous conseille d'aller voir ces courses-là. Numéro 7, j'ai le triathlon des hommes. Si vous n'avez pas regardé la course triathlon homme, allez voir ça. Absolument. Ça vaut la peine du début jusqu'à la fin. Triathlon olympique avec le principe de drafting en vélo. Ça rend les courses vraiment palpitantes. Ça rend ça beaucoup plus stratégique qu'un Ironman ou demi-Ironman où tu n'as pas le droit de drafter. Vraiment, les gars sont... Tu sais, il faut que tu sortes dans le premier pack en natation. Sinon, tu dois tirer jusqu'à la fin. Tu dois essayer de ramener le premier pack, puis tu dépenses beaucoup plus d'énergie. C'est ce qui est arrivé à Christian Blumenfeld, qui était le champion à Tokyo, qui, lui, est sorti dans le deuxième pack de la natation, puis qui a passé son vélo complet à tirer le deuxième pack pour essayer d'aller recoller les premiers. Puis quand il est arrivé sur la course, il avait juste plus de jambes. Alors que Alex Yee, celui qui a gagné, on ne l'a pas vu une fois de la course. Il est sorti de l'eau, il est resté dans le premier peloton. Il n'a jamais tiré, on n'y est pas allé en avant une fois. Puis quand il est arrivé sur la course, alors qu'il était un des favoris, ben il s'est fait dépasser par le Néo-Zélandais, je crois que c'est Néo-Zélandais, Wild. Il l'a dépassé rapidement, puis pendant toute la course, on pensait que Wild allait l'emporter, mais Alex Yee est arrivé hors de nulle part dans le dernier kilomètre. Il a remonté, je pense que c'était 20 secondes, à peu près 500 mètres, là. Puis une course extraordinaire. Allez la voir pour vrai si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça. Puis on a parlé beaucoup de la Seine. La Seine pleine de marde. Puis à quel point ils pensaient faire le triathlon. Finalement, ils l'ont fait le lendemain à cause que la pollution était trop élevée. On se demandait pourquoi nager dans la Seine, pourquoi insister de nager dans la Seine. Mais quand vous voyez les images du triathlon, dans Paris, dans le centre-ville de Paris, c'est magnifique. Et ça l'a rendu, oui, le triathlon, mais aussi toutes les épreuves, beaucoup plus grandioses qu'elles l'auraient été en banlieue de Paris, par exemple. Donc, allez voir cette course-là, autant pour la beauté du spectacle que pour l'arrivée absolument incroyable de Alexis. Félicitations à Alexis. Sixième position de mes coups de cœur, de mes moments coups de cœur aux Olympiques, la course de vélo route femme. C'est Kristin Faulkner qui a gagné l'or. Puis tu sais, aux Olympiques, une des choses que les réseaux de diffusion font très bien, c'est raconter les histoires des athlètes. Mais là, on a appris que Kristin Faulkner, qui a gagné l'or, avait étudié à Harvard en sciences de l'informatique, puis était sur l'équipe de rowing de Harvard. Puis après avoir étudié à Harvard, puis en faisant du rowing, est allé travailler à New York en finance. Après ça, il n'y a vraiment pas longtemps, je pense que c'est comme il y a 3 ou 4 ans, elle a commencé à faire du vélo. Comment la course s'est déroulée, la course sur route, comment ça s'est déroulé, c'est qu'à un moment donné, le peloton a explosé, il y a eu des attaques, et Marianne Vos, qui est probablement la greatest of all time de vélo, est partie en échappée avec une autre coureuse qui s'appelait Vass. Je ne sais pas, elle venait de où. Fait qu'il y avait Vos et Vass qui étaient dans les deux coureuses de tête. Et là, Kristen Faulkner est partie à la chasse avec Lotte Kopecky, qui était la Belge favorite pour remporter le truc. Puis là, comment ça fonctionne? En vélo, habituellement, les favoris gagnent pas tout le temps parce que ils sont marqués par toutes les autres. Fait qu'aussitôt qu'un favori donne un coup, ils ne peuvent jamais s'échapper vraiment, tu sais. Et après ça, quand les favoris essaient d'être dans un pack de chasse, ben les autres coureurs ou coureuses dans le pack de chasse avec les favoris n'ont pas tendance à travailler vraiment parce qu'ils savent que s'ils arrivent à la ligne d'arrivée avec les favoris, les chances sont qu'ils se fassent battre, tu sais. Et fait que là, tu avais Vos et Vass en avant, tu avais Lotte Kopecky et Kristen Faulkner en arrière. Et Kristen Faulkner aurait très bien pu regarder Lotte Kopecky et dire « Hey, écoute, c'est toi la favorite, tire, ramène-nous parce que moi, je te ramène, j'ai aucun avantage à tirer pour toi. » Mais quand Kristen Faulkner a vu que Lotte Kopecky, ça ne tentait pas de tirer, elle a juste dit « Fuck that, je les ramène par moi-même. » Fait qu'elle s'est mise en avant de Lotte Kopecky. Des fois, Kopecky prenait un petit peu le relais, mais jamais plus que comme 15 secondes avant de donner un signe du coude voulant dire « dépasse-moi ». Fait que... c'est ça. Après ça, Faulkner s'est mis à tirer. On réussit à rattraper Vos et Vass qui étaient à l'avant. Fait que là, il était rendu 4 filles. Puis au lieu de juste s'asseoir là puis dire « OK, le travail est fait, je vais me battre pour une médaille », Kristen Faulkner a dit « Fuck that ». Elle a attaqué les trois autres coureuses. Vass était complètement sauté déjà. Puis là, tu avais Marianne Vos et Lotte Kopecky qui étaient sur papier les deux favorites pour gagner l'épreuve. Elles se sont regardées. Il n'y en avait aucune des deux qui avait envie ou les jambes de suivre Kristen Faulkner. Puis elle s'est sauvée jusqu'alors. Après ça, Marianne Vos et Lotte Kopecky sont arrivées deuxième et troisième respectivement au sprint. Tout ça pour dire que juste la façon avec laquelle la course s'est déployé, j'étais sur le bout de ma chaise tout au long. J'en revenais pas que la fille qui était pas favorite, que ça faisait 3 ans qu'elle faisait du vélo, qui avait travaillé en finance à New York pendant que les autres gagnaient les championnats du monde. Littéralement, Marianne Vos a gagné les championnats du monde pendant que Kristen Faulkner était en finance à New York. Ben là, elle drop les deux favorites dans le dernier kilo, puis il n'y a personne qui est capable de rien faire pour ça. C'était magique comme course. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. En 5e position, j'ai marqué Remco Evenepoel. Fait que c'est pas un événement précis, c'est les deux courses de vélo, la course sur route et le time trial. La Belgique, c'est le pays du vélo. Puis depuis que Remco Evenepoel est arrivé sur le circuit, il y a toute la pression du monde parce que c'est comme le prochain Eddy Merckx là, pour les Belges. Eddy Merckx étant probablement le meilleur cycliste de tous les temps. Là. Donc là, Remco a toute cette pression-là. Il arrive du Tour de France. Il arrive troisième au Tour de France après 3 semaines de gros, gros efforts. Il décide de se rendre au Tour de France. Il se sent pas très bien la semaine avant. Et là, le Tour de France commence avec le contre-la-montre, qui est sa spécialité. Et c'est une domination complète. Retournez voir le contre-la-montre de la course olympique, puis regardez Remco. Regardez comment il est aérodynamique. Là. Il n'y a personne qui a cette position-là. Il est tellement aéro. Premièrement, il est petit, c'est un petit gars. Mais deuxièmement, il est super, super compact, extrêmement bas, le dos droit, droit, droit. Puis malgré cette position-là, super aéro, il est capable de pousser des watts en débile. C'est une domination. Il a battu Filippo Ganna, qui est, je pense, le champion du monde de contre-la-montre, ben, avant que ce soit Remco qui soit le champion du monde. Fait que là, bref, Remco fait médaille d'or olympique au contre-la-montre. Et une semaine après, c'est la course sur route. Il y a Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert qui sont les favoris. Mathieu Van Der Poel attaque à peu près, je pense qu'il restait 35 km. Mathieu Van Der Poel attaque, Wout Van Aert le suit. Et là, Remco, lui, il reste dans le groupe de chasse. Van Der Poel et Wout Van Aert se regardent un peu. Personne ne veut vraiment travailler. Fait que le groupe de chasse les rattrape. Puis la seconde que le groupe de chasse les rattrape, Remco attaque, puis il n'y a personne qui le suit dans le peloton. Il n'y a personne qui est capable de le suivre. Le seul qui reste avec, c'est Valentin Madouas, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est arrivé deuxième finalement. Puis là, on est pendant la course, pendant qu'ils sont les deux ensemble, Remco le regarde, puis là, il a l'air de faire un deal avec. Là. Il dit, si tu veux, il a probablement dit ça, là, j'extrapole, mais une genre d'affaire de même. Si tu veux une médaille, il faut que tu travailles avec moi. Fait que soit t'as une médaille ou soit t'as rien pantoute. Mais d'essayer de commencer à négocier avec moi, que je te tire, puis essayer de me battre pour la médaille d'or, ça marchera pas parce qu'on va se faire rattraper. Fait que là, on travaille les deux ensemble. Puis toi, t'as une médaille, moi, je gagne. Ça a l'air d'être un deal que Madouas a accepté parce qu'après ça, il a pris des relais. Même si Evenepoel, il était vraiment plus fort que lui, il a quand même pris des relais. Il s'est quand même bien à bloc, puis ça a marché son affaire parce qu'il est arrivé deuxième. Mais quand Evenepoel a finalement attaqué Madouas pour aller chercher la médaille d'or, il était tout seul, ça semblait un travail terminé. Il a pris une minute d'avance. Et à 3 km de la fin, allez voir ça, c'est absolument incroyable. À 3 km de la fin, il fait une crevaison. Et là, il débarque de son bike. Et là, il se tourne vers le char qui suit, qui a des bikes sur le toit qui sont comme des bikes génériques, pas vraiment faites pour lui. Et là, il crie. L'autre gars amène son vélo. Il monte sur le vélo, un vélo qui, ça paraît, qui est bien trop grand pour lui. Et là, il réussit, avec ce vélo-là, trop grand, à se rendre, à gagner. Et ça, pour moi, c'est le shot télévisuel des Jeux olympiques au complet. Il arrive devant la Tour Eiffel. Allez voir ça, pour vrai, je vous le dis. Il arrive devant la Tour Eiffel, il débarque de son vélo, il met le vélo devant lui, il lève les bras vers le ciel, la caméra zoom out, on le voit les bras vers le ciel devant la Tour Eiffel. C'est débile. Ce moment-là, là, c'est comme, mettez ça dans le Louvre, ça n'a pas de bon sens. Puis ce qui est le plus débile, c'est que Remco, il court avec Specialized. Fait qu'il y avait son vélo S-Work, puis là, l'autre vélo qu'il y a eu, c'est un autre S-Work de Specialized. Fait que quand il arrive, c'est comme la meilleure pub de Specialized. C'est même si ton vélo pète, repongue-toi un autre S-Work, gagne la médaille d'or. Fait que Remco qui sort de ces Olympiques-là, dans le fond, là, lui, il a probablement le palmarès le plus divers de l'histoire. Il y a champion de Belgique sur route, champion de Belgique contre la montre, champion du monde sur route, champion du monde contre la montre, champion olympique sur route, champion olympique contre la montre, troisième au Tour de France, premier à la Vuelta, tout ça à 24 ans. C'est débile. Après ça, si Tadej Pogacar avait été aux Olympiques, peut-être que j'aurais un tout autre discours. Mais pour l'instant, pardon, qui n'est pas là, perd. fait que ça, numéro 5, allez checker ces courses-là, c'est vraiment magistral. Numéro 4, Summer McIntosh. Pour moi, ça, c'est la meilleure performance par une Canadienne de l'histoire aux Jeux olympiques. Première au 404 nages, deuxième au 200e, 204 nages, deuxième au... non, pardon, je recommence. Première au 404 nages, première au 204 nages, première au 200 mètres papillon, deuxième au 400 mètres libre. Dans une autre piscine, le 404 nages, le 204 nages et le 200 papillons sont probablement des records du monde. Dans une piscine plus rapide. Ce qui rend ça un petit peu poche, parce que c'est la plus grande performance par une Canadienne de l'histoire, mais elle n'a pas battu ses propres meilleurs temps. Ce qui est un peu mon reproche à une compétition comme les Olympiques, tout le monde pointe les Olympiques en disant c'est la compétition à chaque 4 ans, plus important encore que les championnats du monde. Et t'arrives aux Olympiques, puis la piscine te permet pas de faire des meilleurs temps, même si t'es dans la meilleure shape de ta vie. C'est aussi plate même pour les Olympiques, pour Paris, parce que admettons que Summer avait fait des records du monde ou des meilleurs temps à toutes ces courses-là, Mais la prochaine fois, quand c'est marqué record du monde, ça va être marqué Jeux olympiques de Paris 2024 à côté. Mais là, ce ne sera pas ça. Fait que les Jeux olympiques de 2024, parce que la piscine était lente, parce que la piscine n'était pas standard selon les normes de FINA, ça fait que les records, on se rappellera pas de ces Jeux-là parce que les records du monde n'existent pas à ces Jeux-là. On va se rappeler de ces Jeux-là pour les victoires, mais ça va disparaître beaucoup plus rapidement que si les performances étaient ancrées dans l'encre, étaient littéralement ancrées dans les records du monde. Ce que j'ai à dire pour Summer, je pense que la pièce manquante de son puzzle, parce qu'elle est encore extrêmement jeune, là, elle a 17 ans, premièrement, c'est de rester dans la piscine. On l'a vu déjà avec Penny Oleksiak. Penny Oleksiak, c'était à Rio qu'elle a fait son gros coming out. Où est-ce que là, tout le monde faisait « Wow, Penny Oleksiak, c'est la prochaine big thing. » Et là, un million d'affaires se passent dans sa vie personnelle. Elle s'entraîne un petit peu moins fort. Elle perd un petit peu le focus sur ça. Et à Tokyo, ça a été correct. Et là, aujourd'hui, Penny Oleksiak était sur l'équipe nationale, mais loin, loin, loin de la nageuse qu'elle a déjà été. T'sais. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que Summer reste dans la piscine. Elle a l'air assez focus encore. Elle est encore super jeune. Fait que elle va juste avoir 21 ans à Los Angeles. Mais elle avait l'air quand même de dire « OK, là, je vais prendre 3 semaines, mais après ça, le training vers Los Angeles commence. » Fait que ça, c'est vraiment de bon augure. Mais je pense que la pièce manquante, c'est vraiment le 200 mètres libre pour Summer McIntosh. Si elle avait infini de jours pour faire toutes ses épreuves, probablement qu'elle l'aurait faite cette année. Mais là, il manquait cette épreuve-là, on dirait, à mon goût. Puis là, je suis vraiment picky, là, parce qu'elle fait quand même beaucoup, beaucoup d'épreuves. Mais je pense qu'une 5e épreuve individuelle, ce serait le maximum qu'elle pourrait faire. Mais ce qui se passerait aussi si elle travaillait son 200 mètres libre, c'est qu'elle serait capable d'aller chercher un top speed probablement un petit peu plus élevé, ce qui lui permettrait d'être probablement encore plus dominante au 400 mètres crawl. Fait que moi, si j'étais elle ou si j'étais son coach, j'essaierais de voir comment on est capable d'intégrer dans cette... Puis là, je dis ça, j'ai à travers mon chapeau en crise, hein, mais son coach, il sait quoi faire plus que moi. Mais moi, c'est ça que je ferais. Je dirais, OK, là, en 2028, on va essayer d'ajouter le 200 mètres crawl, puis on va essayer de mettre tout de notre côté pour aller chercher de la vitesse, pour que le 200 mètres crawl soit compétitive pour la médaille d'or, ce qui va te rendre absolument compétitive au 400 mètres crawl et dans tout le reste de ces épreuves. Mais tout ça pour dire que là, j'encule des mouches, hein, parce que Summer McIntosh a fait la meilleure performance par une Canadienne de l'histoire, probablement par un Canadien, même par une personne canadienne. Et même, on pourrait même dire presque la meilleure performance par une nageuse de l'histoire. Là. Mais ceci étant dit, il y a beaucoup d'optimisme face à ce qu'elle pourrait faire en 2028. En numéro 3, le 4x100 mètres homme sur piste dans l'athlétisme, c'est la seule course pour laquelle j'ai crié. C'était vraiment enlevant. Moi, c'est rare que je me fais vraiment... avoir par les sentiments, par le Canada. Là. Je me sens pas très attaché au Canada. Je suis beaucoup plus attaché au Québec qu'au Canada. Donc, tu sais, de voir quelqu'un d'Ontario gagner une médaille d'or, ça me fait pas grand-chose. Mais là, je pense que c'était juste la force de la course, le moment. Tu sais, André De Grasse a fait un petit bout que il est là. Ça fait un petit bout qu'il est présent. Ça fait un petit bout qu'on le suit, qu'on le supporte. Mais là, il n'y a pas les jeux qu'on espérait qu'il aille. Il nous dit qu'il est blessé après le 200 mètres. Donc là, on écoute ça. Après le deuxième relayeur, le Canada est en train de rattraper à l'extérieur. Puis là, on sait que c'est André De Grasse qui finit. Troisième relayeur prend le relais. Et là, quand le Canada est à peu près égal aux autres pays et que c'est André De Grasse qui prend le bâton, on se dit « Ah, man, il y a une chance. » Peu importe, il y a une chance. L'échange se fait bien. Et là, dans le dernier 50 mètres de son 100 mètres, il commence à laisser les autres derrière. Je criais dans mon salon. C'était un moment magique, honnêtement, un moment vraiment puissant. Puis les Olympiques, c'est ça que ça fait, hein? C'est que ça crée des moments de même. Puis, tu sais, on parle encore, je pense, du relais 4x100 avec Bruny Surin, là, tu sais. Puis ce relais-là qu'on vient de voir, 4x100 hommes sur piste, on va en parler longtemps, puis j'ai eu la chance de le voir live. Si vous avez la chance de le réécouter, allez-y. J'étais là, je me rappelle j'étais où, je me rappelle comment j'ai crié. Puis c'est ce genre de moment-là qu'on va être capable de se rappeler plus tard. Tu sais, quand t'entends les vieux de la vieille dire « Ah, moi, je me rappelle aux Olympiques d'Atlanta. » Puis là, Atlanta même pas, c'est trop récent quand même. Mais mettons, je me rappelle les Olympiques de Barcelone. Puis là, telle affaire s'était passée. Mais là, on va pouvoir être ces personnes-là à dire « Hey, moi, je me rappelle j'étais où à Paris quand le Canada avait gagné le 4x100 course avec notre meilleur coureur de tous les temps qui arrive à la fin après avoir passé des jeux en dessous de ses attentes, mais que là, il réussit à sortir de son corps pour une dernière course. Vous allez pouvoir dire que vous étiez là. Puis juste pour ça, moi, ça rentre dans mon top. Là. Mon top 3, en fait. Numéro 2, selon moi, c'est le feat le plus impressionnant des jeux. À égalité peut-être avec mon numéro 1, là, mais c'est là je parle de Sifan Hassan, la coureuse des Pays-Bas d'origine kenyenne, qui a couru le 5, le 10 et le marathon à l'intérieur même de ces jeux-là. Elle est arrivée 3e au 5, 3e au 10, première au marathon. C'est absolument débile. C'est absolument débile. Le 5 km, il fallait qu'elle court deux fois. Le 10 km était à 36 heures du départ du 42. Ça, là, pensez à ce que je viens de dire là. Le 10 km était à 36 heures du départ du 42. Elle est arrivée troisième au 10 km, la troisième coureuse de 10 km la plus rapide au monde. 36 heures plus tard, du moins 8 heures plus tard, gagnait le marathon. Puis ce qui est le plus impressionnant dans tout ça, c'est la façon avec laquelle elle a couru les trois épreuves. Elle les a courues de la même façon. Elle restait en arrière du peloton de tête pour courir toujours à la même vitesse et elle ne répondait pas aux changements, aux attaques. Elle faisait juste rester accrochée. Fait qu'elle faisait toujours le minimum pour rester accrochée au peloton de tête. Donc, si quelqu'un attaquait en avant, le peloton de tête s'étire. Donc, ça fait un genre d'accordéon. Et la personne qui est en arrière, elle a besoin de moins accélérer que la personne qui est en avant. Parce que si ça fait un genre d'accordéon, la personne en arrière, elle peut juste rester à l'arrière de l'accordéon. Quand l'accordéon finit par se refermer, bien là, tu restes à cette vitesse-là puis tu fais juste revenir dans le peloton. Elle a couru comme ça, le 5 km, le 10 km et le 42, en attaquant à la fin, en se disant « Je vais rester accroché, je vais changer le moins possible de vitesse puis je vais accélérer à la fin. » Ça n'a pas marché. Elle n'a pas réussi à gagner sur le 5 et le 10 km. Elle a quand même réussi à aller chercher les troisièmes positions. Mais sur le marathon, ça l'a marché absolument. Ce que je trouve qui est une stratégie vraiment bonne, en fait, parce que le moins tu donnes des coups, le moins tu changes de vitesse, le plus d'énergie tu sauves. Donc c'est ça, c'était super. C'était vraiment trois courses enlevantes et c'est une performance légendaire. Là. Je veux dire, c'est pas mince affaire, c'est vraiment... c'est ça, on va s'en rappeler vraiment longtemps. Puis, elle a 30 ans, Sifan Hassan, fait que... Est-ce qu'on va la revoir longtemps, peut-être? Là, je pense que c'était comme son troisième marathon à vie. Là. Fait que peut-être qu'on va la revoir, peut-être qu'elle va continuer à dominer comme ça. Chose certaine, c'est une des performances, une des meilleures performances de tous les temps. Finalement, numéro 1, sans grande surprise, c'est les performances de Léon Marchand. 400 mètres, 4 nages, record olympique, presque record du monde, domination complète. 200 mètres, 4 nages, record olympique. Presque record du monde, domination complète. Et finalement, le doublé, 200 brasses et 200 fly, la même soirée. Je sais que Michael Phelps, c'est ça qu'il a dit. Moi, je pense que c'est vrai. C'est le truc le plus impressionnant que j'ai vu aux Olympiques. Être capable de gagner ces deux courses-là, là, parce que n'importe qui connaît un peu la natation sait que c'est deux courses très, très différentes. La brasse et le papillon, c'est deux styles de nage qui n'ont rien à voir un avec l'autre. Et d'être capable de gagner ces deux épreuves-là la même soirée, c'est du stock de légende. Là. C'est pas... je veux dire, si c'est... Michael Phelps n'a jamais fait ça. Michael Phelps, qui est le plus grand nageur de tous les temps, n'a jamais fait ça. Ces deux épreuves-là, c'est deux épreuves extrêmement difficiles, très musculaires. Et d'être capable de reproduire un effort aussi intense, aussi difficile, en une seule soirée. Et ça, c'est sans compter les préliminaires, les demi-finales, les finales de ces deux épreuves-là et de tout son programme à lui au complet aux Olympiques. Honnêtement, c'est probablement la performance olympique la plus extraordinaire depuis 2008, les 8 médailles d'or de Michael Phelps. Je ne crois pas que ça bat cette performance-là en termes global, mais il y a des trucs des performances de Léon Marchand qui dominent cette qui sont plus impressionnantes, en fait, que ce que Michael Phelps a fait en 2008, notamment cette soirée-là du 200 brasses et du 200 papillons. Même chose que pour Summer McIntosh. Toutes ces épreuves-là, ça aurait été des records du monde dans une piscine rapide. Ça aurait pas été des records du monde une fine ligne. Là. Ça aurait été des records du monde vraiment dominant. Ça aurait été des records du monde de domination, là, carrément. Tu sais, pour qu'ils battent le record olympique de Michael Phelps au 404 nages et au 204 nages, qui était en 2008, je veux dire, il faut que ce soit une performance légendaire dans une piscine lente. Et ça probablement que ça a le désavantage encore plus que les autres parce que Léon Marchand, vous regarderez, il fait beaucoup, beaucoup de kick flies sous l'eau à chaque virage. Donc, il va profondément. Et plus tu vas profond, plus les remous sont intenses si le fond de la piscine n'est pas à 3 mètres. Donc, probablement que ça le ralentit encore plus que les autres. Vraiment curieux de voir ce que Léon Marchand va faire pour la suite de sa carrière. S'il reste focus jusqu'à Los Angeles, on a l'occasion peut-être de voir la plus grande performance de tous les temps. Là. S'il est capable de se rendre jusqu'à Los Angeles en restant sur le même vibe, moi je pense qu'il pourrait faire 8 médailles d'or, sinon 9. Le problème avec ça, c'est ton équipe. Je veux dire, Michael Phelps en 2008, quand il a gagné 8 médailles d'or, les Américains étaient la force dominante. Je crois pas que ça va être le cas pour les Français, donc ça serait difficile de viser autant de médailles d'or, mais au moins aux épreuves individuelles, là, je pense qu'ils pourraient passer le râteau assez facilement sur plusieurs épreuves. Pourquoi, juste une petite note là-dessus aussi, là, pourquoi est-ce que Pan Zhanli, tantôt au 100 mètres crawl, qui bat le record du monde, je le mets en 10e position alors que Léon Marchand bat pas le record du monde, mais c'est précisément à cause de ça. C'est une course parfaite, comme le 400 mètres de Léon Marchand, par exemple. Là, il n'y a aucune erreur. On voit aucune erreur dans cette course-là. Autant dans les splits que dans les points techniques, comme le départ, le virage, les coulées, toutes ces choses-là. Il n'y a aucune erreur. Et le fait qu'une course parfaite comme ça ne batte pas le record du monde dans une épreuve comme le 404 nages. Tu sais, au 404 nages, là, mettons, battre le record du monde d'un dixième, là, ça aurait été possible. Mais que là, même dans une course aussi longue que ça, une course parfaite du meilleur athlète du moment ne réussisse pas à battre le record du monde, ça en dit long sur la piscine et la vitesse de la piscine et le fait qu'au 100 mètres crawl, le record du monde a été droppé de 4e, je reviens là-dessus, mais c'est trop difficile à croire. Puis encore une fois, le temps nous le dira, là. Ceci étant dit, Léon Marchand. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que Léon Marchand, pourquoi est-ce qu'on dit pas. Pourquoi est-ce qu'on dit, Pan Zhanli, il a gagné de beaucoup, mais Léon Marchand est dominant encore plus. Fait que pourquoi est-ce que Léon Marchand n'est pas sous suspicion, mettons? Ben, c'est parce que Léon Marchand, ça fait 3 ans qu'on sait c'est qui. Ça fait 3 ans qu'il domine le circuit de la NCAA. Ça fait 3 ans qu'on sait qu'il va arriver à Paris au top, top, top. Pan Zhanli, on ne le connaissait pas il y a 2 ans. Là, il est jeune aussi, il a 20 ans. Mais quand même. Fait que Léon Marchand, ça fait longtemps que ça se prépare. Ça fait longtemps qu'il est là. Même chose pour Summer McIntosh. Ça fait extrêmement longtemps que ça se prépare. Là. Je veux dire, elle était à Tokyo. Elle avait 14 ans. Puis elle était arrivée, je pense, quatrième au 400 crawl, tu sais. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on le sait. Puis elle a battu les records du monde avant. Puis tu sais. Fait que c'est ça. Léon Marchand, honnêtement, on le surveille. Moi, je pense que ça va être. S'il se rend, comme je disais, encore focus jusqu'à Los Angeles, ça va être la prochaine grosse affaire. Là. J'ai hâte de suivre ça. Donc, c'était mon top 10, mais avant, je veux juste, avant de vous laisser, je veux faire un shout-out spécial aux Jeux olympiques de Paris. Honnêtement, de mon souvenir, comme je dis, je suis ça depuis Sydney en 2000, là, Sydney, Athènes, Beijing, Londres, Rio, Tokyo, puis Paris. C'était les plus beaux que je me rappelle. Je ne me rappelle pas avoir eu des aussi belles toiles de fond pour les épreuves. Je ne me rappelle pas avoir vu une foule aussi intense, aussi endiablée, autant derrière leurs athlètes. Je ne me rappelle pas avoir vu des images aussi belles, des histoires aussi grandioses. C'était de toute beauté, tu sais, le fait que Léon Marchand, justement, ce soit aux Jeux olympiques de Paris qui fasse son coming out, ça aurait pas pu être plus grandiose sur toute la ligne. Je veux dire, le seul bémol, c'est la scène, mais encore une fois, je comprends pourquoi ils ont fait les épreuves dans la scène, parce que c'était tellement beau. C'était tellement beau. Ce qu'on voyait, les images, le centre-ville de Paris, et le parcours du marathon, c'était tellement magnifique. Ça courait tout au long de la scène. Ça allait jusqu'à Versailles. Ça revenait par devant la Tour Eiffel. Je veux dire, c'était magistral, là. Puis la foule a été vraiment unique, a été impeccable, à part le petit incident avec Tom Petka que je parlais tout à l'heure. Honnêtement, 10 sur 10. 10 sur 10 aussi. Ben pas 10 sur 10. Je ne vais pas dire 10 sur 10. 8 sur 10 à Radio-Canada pour leur coverage. Sur tout.tv, tu peux voir toutes les épreuves en rediffusion, soit complète ou les highlights. C'était vraiment facile à suivre. Mais pourquoi je ne donne pas 10 sur 10? C'est à cause des câlisses de pub pendant la cérémonie d'ouverture et de clôture. Là. Donnez-nous un nasty break là, avec Ozempic. Là. On paye pour Radio-Can. Tout le monde qui écoute ça, là, vous payez pour Radio-Can. Il y a une scène, je me rappelle, j'étais en tabarnak, là, excusez-moi les sacres, là. J'étais en crisse dans mon salon. C'est la cérémonie d'ouverture, la flamme olympique se fait donner à Raphaël Nadal. Raphaël Nadal pogne la flamme olympique. T'as Serena Williams à côté de lui, t'as deux autres légendes sur le bateau qui s'en vont. Ils crissent une pub, ils s'en vont en pause publicitaire pendant que Raphaël Nadal, la légende ultime de tennis, a la flamme dans les mains. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, man? C'est financé par l'argent public, Radio-Canada. Laissez-moi 2 minutes, esti. Genre, ça, c'est pour ça que c'est pas 10 sur 10. Là, je vais pas partir dans un rant trop grave sur ça, parce qu'au final, je veux dire, on a vu la cérémonie quand même, là. Mais quand même, gardez-vous une petite gêne. Honnêtement, gardez-vous une petite gêne, là, surtout pour des trucs comme la cérémonie d'ouverture, qui est comme... C'est un continu, là. C'est pas comme... Si on écoute, un match de volleyball de plage puis qu'il y a une transition entre les sets, que là, vous avez le temps de mettre une pub de 3 minutes, OK? Mais là, c'est un événement continu avec de la musique qui lâche pas puis des jeux visuels. Puis là, Raphaël Nadal, sur sa scène avec sa flamme dans les mains, tu me crisses une pub de 100 pics pendant ce bout-là. Genre, come on, man. Ça fait pas de sens, là. Fait que 8 sur 10 pour tout.tv. Sinon... Shout-out à mon ami Xavier Desharnais, ami du podcast, qui a fait, d'après moi, le meilleur job d'analyste là, sur la natation en eau libre, sur les épreuves de 10 km, vraiment un gros job. Puis quoi d'autre, c'est tout. C'est tout pour mon recap des Olympiques. Je sais pas trop, allez voir en fait les moments que j'ai parlé. Vous avez sûrement vos propres moments qui restent dans votre tête, mais allez voir si vous n'avez pas vu certains des moments que j'ai parlé. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut le détour. C'est une fois à chaque 4 ans. Puis c'est un rendez-vous. C'est le rendez-vous des geeks, dans le fond. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis on se revoit bientôt pour soit un épisode avec invité ou un épisode avec Charles Castonguay pour le coin du geek. Là, on a... Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. J'ai parlé tantôt de l'équipe du Rouge et Or d'athlétisme avec Coach Lapointe. On veut recevoir les coureurs et les coureuses ainsi que Coach Félix-Antoine Lapointe sur le podcast pour parler de leur préparation et tout. Donc, ça va être fait aussi dans les prochaines semaines. Donc, restez attentifs pour ça. Et sinon, merci beaucoup et à la prochaine.